Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Mark Zuckerberg a écrit « Ne dites pas à une femme de marier un geek, dites-lui d'en devenir une. » Le prenant au mot, une gang de badass travaille en coulisses pour propulser les femmes dans le secteur de la technologie. Le plan, leur apprendre à coder. On jase du langage du futur avec les ambassadrices montréalaises de Ladies Learning Code. Nancy Naluse, Cassie Réaume et Eva Ola.
Code, c'est un vecteur de créativité qui est incroyable, qui te permet de tout faire, tout est possible.
Ça m'enrageait beaucoup de voir comme cette disparité entre des hommes et des femmes de connaissances égales.
C'est plein de femmes super intelligentes, super créatives qui font pas d'argent du tout.
Les Rencontres extraordinaires, une série de 5 épisodes créée par Urbania en collaboration avec Le Devoir. Depuis 2011, l'organisme Ladies Learning Code propage la bonne nouvelle du code dans plus d'une vingtaine de villes canadiennes. Composé de femmes qui ont fait leur chemin dans le monde de la techno, l'organisme tient des ateliers de formation élémentaire sur la programmation. Chaque atelier, d'une durée d'une journée, est dirigé par une bénévole accompagnée d'un mentor, souvent des gens de l'industrie qui ont envie de partager leur passion. Un genre de donner au suivant, mais sans Chantal Lacroix. La mission de l'organisme? Permettre aux femmes d'être des utilisatrices actives des technologies. On a envoyé la journaliste Valérie Duhaime suivre un cours offert aux Montréalaises. Elle a profité de la pause dîner pour rencontrer 3 étudiantes qui aspirent à comprendre les dessous du web, Claudia, Annick et Mylène.
Salut, ça va Valérie?
Bon, toi?
Oui, très bien.
Bon, qu'est-ce que tu fais ici, toi?
Bon, moi, ici, vraiment, c'est par pure curiosité aussi parce que je me dis que dans notre monde qui évolue très, 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 très vite, je me dis que ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est vraiment la base de ce qui arrive très bientôt. Moi, j'ai peur vraiment d'être démodée, puis d'arriver à 40 ans, puis pas pouvoir me renouveler. Fait que je me dis, pourquoi ne pas commencer maintenant à apprendre progressivement, constamment? Donc, moi, c'est vraiment plus pour... dans un but d'avoir une éducation en continu, vraiment, c'est plus pour ça. Qu'est-ce qui est le fun ici, que tu as des mentors qui sont tout le temps à côté de toi, qui te permettent justement d'éviter que tu prennes des mauvais plis ou que tu suis mal un peu le cours, donc c'est vraiment un bel ajout.
Je sais pas pour toi, là, mais moi, quand je suis sortie de l'atelier HTML-CSS, j'étais comme « I'm a powerful bitch ». J'étais comme...
Clairement.
Ça donne quand même l'impression d'être comme... T'es into it.
Oh oui, clairement. Puis tu te dis, c'est fini, là, je peux faire ce que je veux à partir du moment que je sais faire. Tu sais, c'est niaiseux, on a fait 2-3 lignes de code, mais là, tout d'un coup, tu peux faire ce que tu veux. N'importe quoi. Tu sais, tu pourrais jouer du piano demain matin, là, si tu voulais, parce que tu as réussi à faire du HTML puis du CSS.
Ouais, tu fais comme partie d'une communauté secrète.
Oui, d'une clique ailleurs, comme t'es dans l'élite. Hein?
Mylène Ménard.
T'as quel âge?
J'ai 37 ans.
Annick Laroche-Bradford, presque 32.
Presque 32. Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous faites l'apprentissage un peu de la programmation du code?
Pour moi, oui. Moi, je suis vraiment une débutante.
Super. Toi, Mylène, tu me parlais de tes enfants, entre autres, de la littératie.
Exactement. Il y a comme 2 volets, en fait. À la base, il y a aussi, un volet ou un côté professionnel en étant... travailleur autonome, être capable de monter mon propre site web pour avoir une présence en ligne, c'était important. Puis ça, je trouvais que c'était quand même une bonne base à avoir. Mais dans un deuxième temps, c'est que j'avais lu aussi, avant de venir ici, j'avais lu à quelque part, en fait, que les gens qui seraient les illettrés de demain, c'est les gens qui ne seraient pas codés, programmés. Puis, vu que j'ai des jeunes enfants, c'est comme si j'avais, en fait, une vision à plus long terme aussi. Puis, je veux être capable de les accompagner un peu là-dedans, puis de savoir que ça existe pour pouvoir aussi leur faire connaître ça comme étant
un apprentissage.
Exactement.
Tu disais aussi tantôt par rapport au fait que tu as des filles.
Oui.
Puis, c'est important pour toi qu'elles se fassent jamais dire qu'il y a des affaires de filles, des affaires de gars.
Exactement. Donc, déjà, on le sait que c'est un milieu qui est très masculin. Donc, je trouvais que c'était de faire le saut pour venir, justement, m'éduquer à ce sujet-là. C'était un premier pas dans la bonne direction. Puis, c'est aussi... Ça me permet de pas avoir peur de ça puis de pouvoir me poser d'autres questions. Puis, ça va faire en sorte aussi que je vais vouloir en connaître davantage. Donc, je vais être mieux outillée pour pouvoir en discuter avec mes filles quand elles vont être rendues un petit peu plus vieilles. Ça va avoir sûrement tout changé, mais je vais quand même là, pas...
Tu vas quand même avoir des référents.
Tout à fait. Ça reste que c'est un peu, je pense, comme toute chose, puis il faut vraiment aller jouer de... Il faut vraiment... C'est trial and error. Alors, il faut jouer là-dedans pour pouvoir apprendre. C'est pas juste en regardant un écran, quelqu'un qui le fait pour toi, que tu vas être capable de te débrouiller après. Il faut que tu fasses tes propres erreurs, puis que tu réussisses tes bons coups, comme toi, t'as réussi tout à l'heure. Puis il y a cette espèce de fierté-là, tu te dis, yeah, je suis capable. Puis c'est ça, l'idée aussi de empowerment. Tu te sens... T'es fière puis t'es bonne d'avoir réussi à faire ça.
Ben puis là j'ajoute quelque chose, mais moi je trouve que c'est pas très très différent de quand je réussis à réparer ma toilette tout seul,
non.
Sans avoir appelé quelqu'un. Là.
Check.
Ouais, je suis comme I've got this covered, people.
Une badge d'honneur. Tu dépends pas de quelqu'un d'autre en fait, c'est de dire bon ben je suis indépendante.
Est-ce que t'inscrirais tous tes enfants à Kid Learning Code?
Ben là ils sont trop jeunes, mais oui, je veux les ouvrir à ça parce que je pense qu'on peut plus se fermer les yeux puis dire que ça va passer. Non, c'est notre réalité. Puis il faut la maîtriser si on veut justement... si on veut contribuer à la société, c'est par ça que ça va passer.
Parce qu'avant, tout ce qui était marketing, c'était réservé au monde du marketing. Mais maintenant que tu fasses n'importe quoi, t'es obligé d'être présent sur le web, t'es obligé d'être présent sur les médias sociaux. Il y a un côté de branding, un côté de marketing, un côté de visibilité que tu peux pas avoir. Donc, t'es obligé de au moins pouvoir te retrouver un peu sur comment ça fonctionne. Sinon, tu pars avec tellement de recul sur ton compétiteur que c'est irrattrapable.
Puis veux pas aussi, comme par rapport aux enfants, avec toutes les coupures qui ont été faites dans le milieu de l'éducation, dans les CPE, on peut plus compter sur ces établissements-là pour apprendre certaines choses à nos enfants. Il faut nous prendre l'initiative en tant que parents aussi pour les initier à des sujets qui n'ont pas le temps d'être couverts à l'école, qui ne sont pas considérés comme des, même si c'est triste à dire, mais des sujets essentiels. Alors que ça, pour moi, c'est vraiment justement, c'est le présent puis c'est l'avenir. Donc, c'est dans cette optique-là.
Selon l'organisme américain Girls Who Code, le quart des employés du secteur des technologies aux États-Unis sont des femmes. Les chiffres sont semblables au Canada. Heureusement, Nancy Naluse, Cassie Réaume et Eva Ola tentent d'améliorer la situation. Depuis que Nancy a lancé le volet montréalais de Ladies Learning Code et que Cassie a adapté tout le matériel en français, environ 900 personnes sont passées du côté codé de la force. Depuis janvier 2016, Eva se charge pour sa part de développer des cours destinés aux enfants et aux jeunes filles. Notre apprentie codeuse, Valérie Duhaime et Isabelle Porter, journaliste au quotidien Le Devoir, ont discuté de la littératie numérique avec l'extraordinaire trio.
Je m'appelle Nancy Naluse, je suis front-end web developer à Dynamo, qui c'est un design studio basé à Montréal. Et j'ai aussi fondé Ladies Learning Code ici à Montréal. Ça fait genre 2 ans que ça existe ici. Et j'ai commencé avec la programmation avec un atelier de Ladies Learning Code. Fait qu'avant, j'étais comme musicienne, j'avais pas d'expérience, puis... avec Ladies Learning Code, ça m'a donné la confiance d'apprendre la programmation. Et je suis contente.
moi, c'est Cassie Elréon. Je suis développeuse front-end chez Cossette. Et puis, je suis co-chapter lead de Ladies Learning Code avec Nancy. J'organise les ateliers en français. J'ai commencé avec Nancy. En fait, moi, j'étais en train d'apprendre à coder. Et puis, en fait... Dans ma recherche d'apprendre par où commencer, parce que moi aussi j'ai appris sur le tard, j'ai un parcours en communication. Et puis dans ma recherche de où est-ce que je vais apprendre à coder, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. J'ai découvert Ladies Learning Code, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas à Montréal. Mais entre-temps, Nancy a amené le concept en ville et je l'ai contacté tout de suite pour lui dire as-tu besoin d'aide? Je veux m'impliquer. Et puis c'est comme ça que je suis devenue mentor et puis que je me suis mise à traduire les contenus et à organiser des événements en français. Donc il y a des événements Ladies Learning Code en français depuis un peu plus d'un an maintenant.
Ouais.
Puis il y en a maintenant à Québec aussi.
Oui, ouais. Oui, à Québec aussi.
Moi, c'est Eva Ola. J'ai commencé avec le web development il y a plus de 10 ans à Ottawa. J'ai fait comme un parcours de multimédia interactif et j'ai travaillé comme, au fait, ici à Montréal comme developers. Ensuite, je suis retournée à l'école pour faire un doctorat en histoire de l'art parce que je voulais, je sais pas, voir le côté un peu plus intellectuel de, du design. Je suis un peu plus design. Et là, c'est, je suis revenue. Tu sais, j'avais toujours ça comme dans ma poche un peu. J'en faisais toujours un peu. Et puis, moi, je vois maintenant une grande intersection entre l'art et le design et puis le codage. Alors, c'est pour ça que je me suis un peu réinventée comme un user experience designer. Et je vois, et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, d'emmener plus de filles et de voir plus de femmes faire ce mélange de art et de technologie. Donc, je travaille avec l'organisation Ladies Learning Code, inspirée beaucoup par Nancy Nalouse. Dans le secteur, je dirige, je suis chef d'équipe pour Girls Learning Code. Alors, c'est le côté pour les filles, pour leur apprendre à faire le
codage.
Oui, les jeunes filles de 8 à 13 ans environ.
Ouais. Notre but, c'est pas de convertir personne. On veut offrir des ateliers pour les débutantes, pour que les gens se sentent plus à l'aise face aux technologies, se sentent plus outillés, viennent découvrir de façon amicale et conviviale ce qu'on fait. C'est quoi le web? Comment on construit le web? Puis qu'elles se sentent plus à l'aise face à ça. Mais quand on voit que quelques-unes à qui ça pique la curiosité, puis que ça développe une passion, et puis qu'elles ont envie de pousser, et puis qu'ils poursuivent ensuite de ça leur formation, leurs études, et puis qu'ensuite de ça, ils viennent mentorer pour rendre au suivant. Franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, là. Puis on se doutait bien que la demande était là, parce que ben, nous-mêmes, on a ressenti l'envie d'apprendre à coder, le besoin. Mais jamais on aurait pensé là, que ça serait aussi populaire et ben, facile. Facile de, d'organiser, de faire ça.
Et amusant.
Et puis, oui, vraiment beaucoup.
Mais vous n'avez pas peur d'être dépassée par vos élèves un jour?
Bien, on l'espère. Ce serait vraiment un beau cadeau de pouvoir travailler avec des gens qu'on a vus dans nos ateliers, des gens qu'on a su faire naître l'intérêt chez elles.
C'est pas arrivé que quelqu'un lève la main dans un atelier et puis... que vous vous demandiez quoi répondre parce que là, c'était juste trop compliqué pour vous.
En fait, le web, c'est tellement vaste que c'est sûr que des fois, il y a des questions. On ne peut pas tout savoir tout le temps, mais c'est un monde où l'entraide est nécessaire et est très présente. Donc, souvent, dans nos mentors, on a des gens qui sont d'expérience, des gens qui ont plusieurs années de développement derrière la cravate. Donc, c'est facile de... On s'entraide beaucoup. Et puis, finit par trouver la réponse à la question.
Je sais que c'est un problème dans le réseau de l'éducation. Les professeurs que j'ai interviewés qui essaient d'introduire ça dans les classes font ce qu'ils peuvent de leur côté pour se former là-dedans, mais se rendent compte que les jeunes apprennent tellement vite qu'il vient un moment où est-ce que les profs peut-être auraient besoin de formation comme les vôtres, mais ça soulevait toute la question de la formation des enseignants qui... Ouais. sont dépassés par leur petit génie assez rapidement.
Surtout quand si c'est tôt, tu sais, dans la formation, si c'est à 7-8 ans, qui va leur enseigner? Tu sais, ça prend quelqu'un de l'extérieur qui va venir, sinon il faut former de nouveaux enseignants. Ouais. Pour ça, c'est un problème quand même. Ben, c'est un problème, c'est un beau problème.
Oui, c'est un beau problème.
Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, les cours de codage devraient être inscrits dans le curriculum, tu sais, de l'éducation primaire, secondaire. Alors, je pense que c'est un peu ça qu'on regarde maintenant. On devrait regarder.
Ben, on en a discuté, en tout cas, au dîner, samedi, à l'atelier. On se disait que ça serait vraiment ça serait vraiment une bonne idée. Puis ensuite, on s'est dit que non, on n'était pas d'accord.
Ah ouais?
Parce qu'on deviendrait... Notre génération serait dépassée là, tellement vite. Là. Fait qu'on, finalement, n'était pas d'accord. Ouais. On a pesé le pour et le contre. Puis on se disait, quoi? Ça veut dire qu'à 16 ans, ils vont pouvoir coder, puis nous pas.
Mais oh moi, my God.
Mais bon, changer la société, ça va être fascinant.
Ouais. Ouais. Mm-hmm.
Si on intègre ça dans le réseau d'éducation, mettons, puis que plein de petites filles s'intéressent au code très jeune, on n'aura plus besoin de Ladies Learning Code, là.
On fait notre travail, alors.
On n'a pas besoin de Ladies Learning Code.
On va récupérer nos samedis, mais j'espère
parce que ça serait génial si on est comme 50-50 femmes et les hommes dans notre industrie. J'aimerais ça.
Ladies Learning Code est là parce qu'il y a un réel besoin qui n'a pas été rencontré encore par la par la culture. Donc, si un jour on n'en a plus besoin, c'est vraiment bien. C'est du beau travail que vous aurez fait. Qu'on a...
Ça, c'est un succès.
Ouais. Ouais, c'est... Oui, c'est un vrai succès, oui. Vraiment.
Voilà.
Ouais.
Notre rôle, c'est vraiment de rendre ça amusant, accueillant, convivial, confortable.
Est-ce qu'il y a des garçons, des hommes qui vous ont demandé de participer aux ateliers? Est-ce que vous en avez refusé? Non?
Non, jamais.
On refuse jamais personne, mais on incite les garçons qui ont envie de s'inscrire d'amener une copine avec eux.
Il n'y en a pas pour les gars, dans le fond.
Il y a assez de choses pour les garçons.
Il y a assez. Il n'y en a pas qui ciblent officiellement les garçons, en fait.
Non.
Moi, je me questionnais aussi dans le cadre des ateliers Kids Learning Code, Girls Learning Code. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je lisais qu'il y avait des mesures pour permettre aux enfants défavorisés de participer. Est-ce que c'est juste à Toronto?
Ça, c'est, je pense que ça commence à Toronto. Ici, à Montréal, c'est clair que je me soucie beaucoup de cette question-là. Et justement, un truc, si pour les enfants, pour les filles, pour participer aux ateliers Girls Learning Code, il faut qu'elles aient un ordi, un laptop, ou que leurs parents en aient un. Et puis, beaucoup de familles n'en ont pas. Justement, avec Cassie et Nancy, on est en train de faire une collecte de laptops usagés pour pouvoir les offrir, les prêter aux filles, pour pouvoir justement avoir plus de diversité dans nos ateliers. Je m'en soucie beaucoup.
Oui, c'est important pour nous. Et puis, on a des collègues dans notre chapitre à Victoria, au BC, en fait, qui, eux, ont eu une donation de laptop et puis vont partager avec nous. Et puis, ça va aller à Eva, justement, pour permettre aux jeunes là, de pouvoir avoir accès à un laptop là, en cas de besoin.
Donc, si vos écouteurs veulent nous donner leur laptop usagé.
Merci aux filles de Victoria.
Mais justement, peut-être que je me demandais s'il n'y avait pas des gens carrément plus âgés ou plus vieux, voire des retraités qui participaient aux ateliers pour être dans le coup, ou c'est vraiment juste des jeunes dans les formations?
Bien, on en voit quand même. Ouais. Je dirais
ça me surprend, que... mais ouais. Non, je suis contente de les voir aussi.
Oui.
C'est un beau projet de retraite.
Oui.
puis non, donc c'est souvent, ça arrive presque à chaque atelier là, qu'on... On a, si je peux me permettre, des têtes grises qui viennent fouiner. Puis ça nous fait vraiment plaisir de les voir puis de les épauler. Puis dans notre concept, en fait, on a les mentors. Donc, en fait, on a des gens, des spécialistes de l'industrie, des hommes et des femmes, en fait, qui sont bénévoles puis qui viennent accompagner nos apprentis durant les ateliers. Donc, personne n'est laissé à soi-même. Tout le monde a l'aide dont ils ont besoin. On prend vraiment les gens, peu importe leur niveau. Et puis, on les accompagne dans leur apprentissage. Puis c'est important pour nous qu'ils sentent bien, puis qu'ils sentent à l'aise de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Et puis, ça fait en sorte que, effectivement, n'importe qui peut venir à nos ateliers. Là.
Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, on a toutes sortes d'images et d'impressions là, par rapport à ce qu'est cet univers-là. C'est quoi le plus grand malentendu ou la principale différence entre ce qu'on imagine, qui est l'univers du code, et la réalité de ce que c'est pour une fille qui ne connaît pas ça? Là?
Ben, je pense que a priori, on a l'impression que c'est froid, que c'est compliqué, que c'est pas pour nous, que c'est très cérébral et peut-être ennuyeux, le code. Je pense que les gens s'imaginent vraiment, là, on est derrière notre ordi, on parle pas à personne, puis c'est vraiment solitaire comme travail et comme activité, alors que c'est tout le contraire, c'est tellement collaboratif. Tu sais, on va voir les films, puis on va voir les génériques à la fin, et puis une plateforme web, une application, un site web, on pourrait en faire tout autant, là. C'est un grand travail d'équipe, et puis le code, c'est un vecteur de créativité qui est incroyable, qui te permet de tout faire, tout est possible. Donc souvent, les filles vont s'intéresser au design, et puis on va les perdre dès qu'on... Ça va devenir technique, alors que c'est une porte gigantesque vers une autre dimension à donner à toutes les idées qu'on a en tête. Et puis, plus on sait comment coder, plus on sait comme on se sent à l'aise avec les technologies, bien, plus ça donne de dimension à toutes nos idées puis à toute notre créativité. Puis, en fait, il n'y a pas de limite après ça. Donc, c'est vraiment pas brun.
Moi, je peux me permettre, je trouve ça intéressant parce que... La vision que j'avais, moi, c'était quand même assez compliqué, tu sais, c'était très minutieux, fallait se concentrer fort et tout. Puis là, maintenant, j'ai fait 3 ateliers, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ça me rappelle quand j'ai voulu apprendre à coudre, mais ça implique que je dois gérer une machine à coudre. Ça veut dire que des fois, je dois la huiler, ça veut dire que je vais devoir découper droit, mais je fais ça parce qu'ensuite j'ai envie de coudre quelque chose. Je trouve que ça ressemble beaucoup à des choses qu'on apprend ou qu'on aime. Il faut nettoyer ses pinceaux quand on peint. Il faut, tu sais, ça finit par être une mécanique pour créer, dans le fond.
Ça, c'est tellement une bonne observation, parce que moi aussi, j'ai observé ça, que justement, le codage, le fait que c'est miniature et qu'on doit être super précis, c'est quelque chose que déjà, c'est déjà partagé par beaucoup de femmes, ces espèces de désintérêt pour des crafts et de faire de l'art, de la créativité qui prend beaucoup de concentration minutieuse comme ça. Et moi aussi, je trouve justement qu'il y a, qu'on peut jumeler le code avec l'art et ces espèces d'activités comme ça. Donc, ouais, c'est intéressant de t'entendre dire ça. Je suis dans le domaine technologique, mais aussi dans le domaine, mettons, des humanités. Et dans le domaine technologique, c'est plein de gars, c'est plein d'hommes. Je vois bien ça. C'est plein d'argent aussi. Et plein d'hommes qui font plein d'argent dans la technologie. Et aussi, quand j'étais comme dans le domaine des humanités, les écrivaines, les artistes, les gens dans les musées, c'est plein de femmes super intelligentes, super créatives qui font pas d'argent du tout. Alors, ça aussi, ça m'enrageait beaucoup de voir comme cette disparité entre des hommes et des femmes de connaissances égales, mais juste parce que quelques-uns sont encouragés d'aller vers la technologie, ils font beaucoup plus d'argent. Je ne dis pas comme deux fois plus, je parle de millions de fois plus. Ouais. Donc, c'est un autre truc qui m'amène à vouloir emmener plus de filles aussi dans ce domaine, c'est pour égaliser ça. C'est une question féministe aussi pour moi.
Bien, je suis contente que tu en parles, en effet, parce que c'est une dimension qui n'est pas si souvent abordée. On dit que c'est important qu'il y ait plus de femmes en tech parce qu'il n'y en a pas, puis c'est dommage. Mais c'est aussi dommage pour les femmes en général, parce que ce sont de bons emplois. C'est un secteur qui est florissant. C'est un secteur qui risque pas de manquer de main-d'œuvre bientôt. C'est un secteur où, bien que dans les compagnies, il n'y ait pas nécessairement tout de bien développé, là, je pense aux congés parentaux, ce genre de choses, où il n'y a pas de politiques qui sont souvent bien établies parce qu'il n'y a pas de femmes dans les compagnies, fait qu'il n'y a personne pour penser à ça. C'est facile de travailler à la pige, de se retirer, de revenir. C'est sûr, faut demeurer à la page, mais ça fait partie de tes habitudes quand tu deviens développeur que de continuer à rechercher puis à rester à jour. C'est ta responsabilité personnelle, mais c'est possible de le faire. Il y a tellement de gens qui voyagent à travers le monde, qui continuent à travailler. C'est possible de le faire avec les enfants. C'est possible de combiner ce travail-là avec d'autres projets, d'autres passions.
D'aller habiter en région.
Aussi pour tous les gens qui font de la musique, qui font des arts, qui font du sport, ça se combine et ça se marie à tellement de sauces que franchement, il n'y a pas de limite. Puis c'est de bons emplois qui permettent de faire beaucoup de choses. On parle de l'empowerment des femmes, ben ça, c'est franchement un beau vecteur de ça. Et puis ça devrait être promu davantage.
Mais justement, dans d'autres domaines où les femmes ont dû vraiment se battre, en fait, pour trouver leur place, là, je pense au milieu des affaires ou même dans le milieu du droit à une autre époque, les patrons résistaient beaucoup à l'embauche de femmes, justement, parce qu'ils avaient peur des congés de maternité, de tout ça. Le secteur des jeux vidéo, par exemple, est réputé pour être très... il n'y a pas moyen de syndiquer ces secteurs-là. Tout ça, c'est connu comme ça. Est-ce qu'il y a des patrons qui sont réticents d'embaucher des femmes à cause de ça? Parce qu'on a peur... On a peur des congés de maternité, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi pire?
Je pense qu'aujourd'hui, en ce moment, comme en mars 2016, c'est pas cool. Alors, si mettons, il y avait comme un employeur qui ne voudrait pas embaucher une femme parce qu'il pense qu'elle va devenir enceinte, je pense qu'il y aura un outcry.
Je pense qu'effectivement, les gens, on est de plus en plus conscientisés face à ces choses-là. Puis bon, faut dire que Montréal, c'est pas la Silicon Valley non plus, là. Je pense qu'effectivement, il y a eu... ça a été assez médiatisé, puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance puis de la situation. Je pense que c'est ça. Un employeur serait bien malvenu de créer une situation comme celle-là, ça serait, je pense que ça se retournerait facilement contre lui.
Oui, surtout donc, avec les réseaux sociaux.
Oui, ouais.
Mais
oui.
J'ai vu dans, il y a comme un site qui s'appelle Elephant in the Valley, qui a dit comme, oh, il y avait plus de genre 60% des femmes qui ont dit comme, dans le, avec un, une interview, que l'employeur a, lui a demandé comme, est-ce que tu vas être enceinte dans quelques ans et ouais. Ouais, c'est évident que cette question est posée.
C'est l'université de Stanford.
Mm.
Puis, ouais, 75% se sont fait demander s'ils prévoyaient se marier, faire des enfants dans les prochaines, dans les prochaines années directement à l'entrevue. 75% des
gens. Je pense que cette question est contre la loi aussi, je pense.
Oui, oui, complètement.
C'est complètement illégal de poser cette question-là en entrevue, mais ils la posent quand même.
Ouais, et c'est pourquoi on a le droit de mentir quand on se fait poser cette question-là, parce que c'est illégal.
Puis est-ce qu'il y a une solidarité entre les femmes qui travaillent dans le milieu? Est-ce qu'on commence à sentir ça?
Ben, personnellement, je dirais que oui, mais c'est difficile de ne pas être solidaire quand t'es 2-3. Donc, mais il y a des regroupements de femmes. On a parlé des Pie Ladies, il y a Montreal Geek Girls, il y a Montreal All Girls.
All Girl Hack Night.
Merci. Il y a nous, les Ladies Learning Code.
Pixels.
Il y a les Pixels, oui, aussi, qui sont... en fait, qui sont un organisme sans but lucratif également, et puis qui organisent des ateliers, qui organisent des activités, en fait, au niveau des jeux vidéo. Donc, il y a des ateliers pour les adultes, des ateliers pour les jeunes également. Donc, pour démocratiser, apprendre aux gens à utiliser Scratch, à utiliser Unity, donc à utiliser des logiciels pour créer des jeux vidéo et puis en apprendre davantage sur cette autre facette du web.
Il faut dire qu'aussi, il y a plein d'hommes qui sortent, supportent d'avoir des femmes dans ce milieu et qui sont là comme mentors. Et je pense que c'est super important aussi pour eux.
C'est pas une guerre des sexes,
oui,
non?
C'est ça, exactement, que tout le monde s'entraide comme ça. Alors, c'est quelque chose qui se répand dans les milieux de travail. Tu sais, un mentor homme qui vient travailler avec des femmes dans un atelier, donc il ira dans le milieu de travail, il sera plus comme poussé pour amener des femmes ou travailler avec elles. Et la même chose pour des jeunes filles, qu'elles n'aient pas peur de travailler avec des hommes ou être enseignées le codage par des hommes et savoir qui pourrait avoir des opportunités là. Une belle expérience que j'ai eu dans un de mes ateliers, c'est là, à midi, après le dîner, quand tout le monde se présente, quand tous les mentors se présentent, il y avait un homme qui s'est présenté pour dire « Ah, pourquoi je suis là? » Et il nous a dit à tous, il voudra devenir père un jour, il voudra devenir père d'une fille, et qu'il était là pour apprendre comment les filles apprennent et comment il pourrait être le meilleur père pour l'encourager à devenir, tu sais, qui elle va devenir. Et puis, ça nous a fait tous mieux. Donc, il y a plein de bons hommes, là aussi, dans notre milieu.
Quand, au premier atelier, j'ai fait plusieurs entrevues, puis entre autres, j'ai parlé à un mentor, Jonathan, un gars. Et puis lui, c'était la première fois qu'il était mentor pour un événement, puis on discutait avec lui de la place des femmes en technologie, puis lui, il me disait que, en fait, il considérait que c'était vraiment important. Lui, il voulait des femmes dans son équipe parce que c'est une autre sorte de leadership. Puis que souvent, il considérait qu'avec une femme dans son équipe, il y avait un échange qui était plus productif parce qu'on était plus vers la recherche de solutions, la créativité était la même. Donc, un projet sur lequel seulement des hommes avaient travaillé serait sans doute moins complet qu'un projet qui avait été travaillé par des développeuses hommes et femmes, en fait.
Il y a plein de belles études qui démontrent là, que d'avoir des femmes au sein des conseils d'administration, dans des rôles de leadership, en fait, c'est positif parce qu'effectivement, ça amène d'autres perspectives, puis des perspectives qui sont intéressantes puis qui sont importantes aussi. Un petit clin d'œil aux technologies un peu différentes, mais quand les gens ont commencé à être conscients des accidents de voiture, ils ont développé la ceinture de sécurité. Et puis, ben on a tous vu là, dans les télés, dans les films, les annonces, tout ça, comment les tests d'impact et tout ça avec les mannequins et tout. Mais ces équipes-là, ces équipes de travail-là étaient composées uniquement d'hommes. Donc, les mannequins étaient composés de, étaient faits sur des modèles d'hommes. Et puis, quand ça a été mis sur le marché, ils se sont aperçus que, en fait, ben, souvent, les femmes résistaient pas aux impacts. Aussi. Les enfants aussi également. Donc, eux autres, ils ont complètement zappé les femmes et les enfants. Alors, les hommes se trouvaient protégés par la ceinture de sécurité, mais pas les femmes parce qu'on a des densités corporelles et des tailles vraiment différentes, quand même.
Certaines choses au niveau de la poitrine aussi, hein,
qui, oui. C'est pas... Oui, donc, Donc, ils ont complètement zappé ça. Il n'y avait pas de femmes dans ces équipes de travail-là, puis elles autres, ils n'y ont pas pensé. Alors, c'est, franchement, ça a eu une implication assez dramatique. Mais donc, dans une équipe de conception de plateforme de site web, c'est peut-être un peu moins dramatique, mais c'est quand même un bel ajout d'avoir des femmes dans son équipe, ne serait-ce que pour penser à autre chose, penser différemment, puis collaborer pour trouver des meilleures solutions. On parle beaucoup de diversité aussi. On parle de... C'est important d'aller chercher plus de femmes en techno, mais au niveau de la diversité aussi, au niveau des races et tout ça, je pense que c'est important aussi. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a d'autres organismes à travers le monde. Il y a Girls Who Code, mais il y a aussi...
aux États-Unis, c'est...
Oui, Black Girls Code. Il y a aussi d'autres équivalents. Là. Donc, il y a d'autres organismes, il y a d'autres gens qui se regroupent pour faire la promotion de l'apprentissage du code parce que je pense que c'est Facebook qui ont sorti une étude en juin 2015 par rapport à la diversité. Puis, ils rapportaient qu'au sein de leur entreprise, en fait, 16% des postes techniques étaient occupés par des femmes. Seulement 16%. Puis, ben, en fait, là-dessus, ben 51% sont des Blancs puis seulement 1% sont des Noirs. Puis le reste, ben, c'est pas mal asiatique puis hispanique. Et puis, puis très, très peu pour les autres. Donc, franchement, il y a du travail à faire à ce niveau-là aussi parce que ben, tout le monde peut apprendre à coder, vraiment. Mm-hmm. Puis,
Pourquoi? Pourquoi c'est une affaire de vieux blancs, monsieur?
Oui, c'est vraiment un gros problème et je pense à ça tout le temps. Comme pourquoi dans la télévision, on voit, c'est toujours comme les garçons qui ont comme 20 ans à 30 ans, qui sont blancs, qui sont garçons.
Genre, et dans leur sous-sol.
Dans le sous-sol, qui boit le Red Bull. Et, je trouve que c'est...
Mark Zuckerberg,
exactement. je trouve que c'est tellement difficile pour moi. Je peux parler juste de moi-même, mais c'est... mon père est ingénieur, mon frère est développeur. Mais j'ai juste commencé avec la programmation il y a 2 ans. Parce qu'avant, j'ai vu que c'était comme un monde de garçons. Je me sentais comme tellement gênée. J'ai pris une classe de programmation quand j'étais à l'école secondaire, mais j'ai rien compris. On était juste comme 5 filles, puis il y avait comme 20 garçons. Et je me sentais tellement mal. Et peut-être, pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était comme...
J'ai eu une expérience presque pareille, même au niveau de mon père qui était programmeur.
Ouais, c'est ça, exactement.
Vous aviez
l'impression
que c'était pas votre place, en fait.
Ouais, exactement. Okay.
Mais justement, vous avez pas l'impression que le défi, c'est d'avoir de créer des nouveaux modèles féminins, des nouvelles figures auxquelles on peut s'identifier quand on est une jeune femme, ou même une jeune fille à l'école, puis secondaire. Est-ce que vous avez l'impression d'être vous-même des modèles, des role models, comme on dirait en anglais, là, pour, uh-huh. Pour toutes ces filles qui ont l'impression un peu comme toi quand tu étais jeune de pas être à leur place dans les technologies et tout.
Ben, c'est sûr que c'est une question qui se pose souvent. Là. En fait, les gens disent beaucoup qu'on a, justement, il n'y en a pas beaucoup des role models, des filles programmeuses à qui on peut s'identifier. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et puis, dans l'histoire du code aussi, dans l'histoire de l'informatique, il y a des femmes très importantes qui ont contribué puis qui ont eu un fort impact. Et puis...
La toute première.
Rédiger
un algorithme.
Oui, Ada Lovelace.
Mais puis ça, pourquoi tout le monde ne sait pas ça?
Mais oui.
Des fois, il y a des trucs. La première personne qui a rédigé un algorithme, tu sais, c'est important. Là, elle a mis le... en terre ce qui gère toute notre vie maintenant, puis on sait pas. C'est beau, je me tais.
Bon. Oui. c'est tout à fait.
C'est vrai.
Il y a Grace Hopper aussi, qui était une militaire qui a contribué à des premiers langages compilés, en fait, qui a donné naissance justement à COBOL, qui est un vieux langage de programmation qui est utilisé par certaines de nos banques encore aujourd'hui. Effectivement, ben là, on en revient au sexisme pur, là, qu'il y a beaucoup de femmes dont la contribution a été passée sous silence, là. Donc ça, c'est malheureux, mais justement, je pense que on est dans un cycle un peu favorable, puis on devrait rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt ce qui appartient à Cléopâtre, je sais pas.
Moi, je me demandais, où est-ce que vous voyez tout ça dans 5 ans?
C'est toujours difficile. je sais pas. Mais j'espère que je suis encore dans cette industrie. J'espère. Mm-hmm. Parce qu'on voit que il y a... J'ai vu dans une étude que 52% des femmes partent de notre industrie à cause de l'environnement hostile ou genre il y a beaucoup de problèmes avec le job, même si elles sont capables de rester dans.
C'est énorme.
Ouais, okay. C'est énorme. C'est à 52% avec le Athena Factor. Alors j'espère que je suis encore dans cette industrie. J'adore mon job. Mais j'espère que. Et j'adore organiser Ladies Learning Code, mais comme je vous disais, j'espère que peut-être Ladies Learning Code n'existe pas parce qu'on n'a pas besoin de... égaliser.
Si éventuellement la programmation faisait son entrée dans le cursus scolaire, à ce moment-là, j'imagine que Ladies Learning Code serait plus vraiment nécessaire.
Ouais, peut-être.
Ça va peut-être prendre plus que 5 ans.
Je pense que malheureusement, ça va prendre plus que 5 ans. Mais ben, comme Nancy, j'espère avoir l'occasion de travailler encore dans l'industrie pendant longtemps. Puis c'est sûr que Ladies Learning Code, c'est super gratifiant. Puis ça apporte beaucoup dans nos vies aussi, même si c'est beaucoup de travail. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de le faire. Là. C'est du gros soleil dans nos vies. Mais donc, j'espère être sensiblement au même endroit, mais avec de plus grandes réalisations. Puis on veut toujours diversifier nos activités. On a toujours des idées, des projets à réaliser, des partenariats à aller chercher pour nous aider à rejoindre plus de femmes dans tous les secteurs, dans toutes les communautés. Donc peut-être un Ladies Learning Code plus diversifié encore, et puis plus de groupes, et puis plus de villes. On est présent dans 23 villes canadiennes.
Mais oui, mais c'est ça, justement, au Québec, 23... c'est Montréal-Québec seulement?
Oui, ouais. Juste Montréal-Québec. Donc, davantage au Québec, probablement. Ça serait vraiment
fun. On pourrait faire un Granny's Learning Code.
Oh, j'aimerais ça, c'est une bonne idée. Oui,
ça serait vraiment génial. Donc, plus de villes au Québec, et puis des Granny's Learning Code.
Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé 4 autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca/rencontres. Cet épisode a été enregistré chez Studio Placement.